Chapitre 44, l'organisation de l'Église. Il faut que le mandat évangélique du Christ soit rempli et que l'œuvre qu'il a entamée sur la terre soit poursuivie. Et c'est à l'Église qu'a été confié ce privilège, car c'est pour ce but qu'elle a été organisée. Les pasteurs doivent aimer l'ordre et être eux-mêmes disciplinés. Ils pourront alors diriger avec succès l'Église de Dieu et apprendre à ses membres à travailler de concert, comme un régiment bien entraîné. Si l'ordre et la discipline sont nécessaires pour la réussite d'une opération sur un champ de bataille, ils le sont bien davantage dans le conflit où nous sommes engagés et dont l'enjeu est plus important et plus noble que ceux pour lesquels s'affrontent des forces armées. Dans ce conflit, des intérêts éternels sont en jeu. Les anges travaillent dans l'harmonie. Un ordre parfait préside à tous leurs mouvements. Mieux nous imiterons l'harmonie et l'ordre des armées angéliques, plus nous bénéficierons des efforts de ces agents célestes en notre faveur. Si nous refusons de voir la nécessité d'une action harmonieuse, et que, dans notre activité, nous soyons désordonnés, indisciplinés et adversaires de toute organisation, les anges, qui sont parfaitement organisés et qui agissent dans l'ordre, ne peuvent nous apporter une aide efficace. Ils se retirent attristés, car ils ne sont pas autorisés à donner leur appui à la confusion, à la distraction et à la désorganisation. Ceux qui souhaitent l'assistance des messagers célestes doivent coopérer étroitement avec eux. Ceux qui ont reçu l'onction d'en haut rechercheront l'ordre, la discipline, et la coopération dans leurs efforts, et les anges de Dieu pourront ainsi travailler avec eux. Mais jamais, non jamais, les messagers célestes ne donneront leur approbation à l'irrégularité, à la désorganisation, et au désordre. Satan sait bien que le succès ne peut venir que d'une action coordonnée et harmonieuse. Il sait que toute chose ayant trait au ciel nécessite un ordre parfait, et que la soumission et une discipline totale caractérisent les mouvements de l'armée angélique. Il s'est donné pour objectif crucial d'éloigner les chrétiens de profession aussi loin que possible des dispositions du ciel. De ce fait, il trompe même le peuple élu de Dieu et lui fait croire que l'ordre et la discipline sont contraires à la spiritualité, et que sa seule sécurité se trouverait dans le fait de laisser libre cours aux choses, de se distinguer de façon spécifique des autres groupes de chrétiens qui se sont unis et qui œuvrent pour établir la discipline et une harmonisation de leurs actions. Tous les efforts faits pour établir l'ordre sont considérés comme dangereux et vus comme une restriction de la véritable liberté, et donc craint parce qu'assimilé au papisme. Ces âmes trompées considèrent que c'est une vertu pour eux de se glorifier de leur liberté de penser et d'agir indépendamment. Ils n'accepteront aucun conseil venant d'autrui. Ils ne se soumettent à aucune autorité humaine. Il m'a été montré que c'est Satan qui, par son œuvre spéciale, fait croire aux gens qu'ils sont en accord avec Dieu alors qu'ils s'éloignent de leurs frères et empruntent leur propre voie. Dieu a fait de son Église un instrument par lequel il a communiqué sa volonté aux hommes. Il ne permet pas que l'un de ses serviteurs fasse une expérience indépendante ou contraire à celle de l'Église elle-même. Il ne donne pas non plus à un homme en particulier la connaissance de ses desseins pour toute l'Église, tandis qu'il laisse entièrement cette dernière, qui est le corps du Christ, dans une ignorance totale. Dans sa providence, il met étroitement en rapport ses serviteurs avec son Église, afin qu'ils aient moins de confiance en eux-mêmes, et se fient davantage aux hommes que Dieu dirige pour l'avancement de son règne. Les églises organisées par les prophètes. L'organisation de l'Église de Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'Évangile. Ceux qui avaient la responsabilité d'assurer la bonne marche de l'Église ne devaient dominer sur les fidèles, mais, comme des sages bergers, ils étaient appelés à paître le troupeau de Dieu, en étant les modèles du troupeau. Les diacres devaient être des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, point plein d'esprit saint et de sagesse. Il leur fallait prendre position en faveur du droit et s'y maintenir avec fermeté et résolution. Ainsi, ils auraient sur tout le troupeau une influence unificatrice. Le soin avec lequel ils les entourèrent fut un facteur important dans le développement de leur vie spirituelle. Ils organisèrent des églises en Lycaonie et en Pisidie, partout où se trouvaient des chrétiens. Des anciens furent nommés dans chaque église, et ordre et méthode introduits dans les affaires qui concernaient le bien spirituel des frères. Ceci était en accord avec le but que se proposait l'Évangile, à savoir, unir tous les disciples du Christ en un seul corps, et c'est ce but que Paul s'efforça d'atteindre pendant tout son ministère. Partout où, grâce à ses efforts, un certain nombre de païens reconnaissaient le Christ comme leur sauveur, l'apôtre les constituait en église. Il procédait de même dans les endroits où les chrétiens étaient peu nombreux. Il les exhortait alors à s'entraider, et à se souvenir de la promesse qui avait été faite par Jésus, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Règlement de litige au sein de l'Église. À Jérusalem, les délégués d'Antioche rencontrèrent les frères des diverses églises qui s'étaient réunis pour la grande assemblée, et ils leur firent part des succès qui avaient couronné leurs efforts parmi les gentils. Puis, ils donnèrent un résumé précis de la confusion produite par les déclarations de certains pharisiens convertis, venus à Antioche, qui prétendaient que, pour être sauvés les païens devaient être circoncis et observer la loi de Moïse. Cette affaire fut chaudement débattue par l'assemblée. Le Saint-Esprit jugea qu'il était bon de ne pas imposer la loi cérémonielle aux païens convertis, et l'opinion des apôtres à ce sujet était conforme à la volonté divine. Jacques présidait l'assemblée. Il la clôtura par ces paroles, « Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Et ceci mit fin à la discussion. Dans cette circonstance, Jacques semble avoir été choisi pour annoncer aux fidèles la résolution prise par l'assemblée. Cependant, les païens convertis devaient abandonner les coutumes qui étaient contraires aux principes chrétiens. Les apôtres et les anciens acceptèrent d'informer par lettre les païens de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et l'impudicité, d'observer les commandements et de mener une vie sainte. En outre, on affirmait que ceux qui avaient déclaré la circoncision obligatoire n'y étaient pas autorisés par les apôtres. L'assemblée qui régla le litige se composait des apôtres et des docteurs qui s'étaient signalés dans l'établissement des églises chrétiennes, tant parmi les juifs que parmi les gentils, ainsi que les délégués choisis dans différentes régions. Il y avait aussi les anciens de Jérusalem, des délégués d'Antioche, ainsi que des églises les plus influentes. L'assemblée agissait conformément à l'inspiration divine et avec la dignité d'une église établie par la volonté d'en haut. À la suite de leur délibération, tous furent convaincus que Dieu avait lui-même tranché la question en répandant le Saint-Esprit sur les gentils. Ils comprirent alors que tous devaient suivre les directives de l'Esprit. Le corps entier des chrétiens ne fut pas appelé à statuer sur ce différend. Ce furent les apôtres et les anciens, hommes influents et au jugement saint, qui rédigèrent et émirent le décret, accepté en général par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas satisfaits de la décision qui avait été prise. Quelques frères, ambitieux et présomptueux, la désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sous leur propre responsabilité. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de travail et cherchèrent à saper l'influence des hommes que Dieu avait choisis pour prêcher l'Évangile. Dès ses débuts, l'Église rencontra de tels obstacles et elle en rencontrera toujours jusqu'à la fin des temps. Le danger de considérer son propre jugement comme infaillible. Ceux qui sont portés à considérer comme infaillible leur propre jugement, courent un grave danger. Satan s'efforce alors de les séparer des hommes de Dieu, véritables porte-lumière, par lesquels le Seigneur agit pour édifier et développer son œuvre ici-bas. Dédaigner ou mépriser ceux qui sont chargés de diriger l'Église, c'est rejeter les moyens qu'il a donnés pour aider, encourager et fortifier son peuple. Si un homme méprise ce que le Seigneur a choisi pour accomplir son œuvre, s'il croit qu'il ne recevra la lumière que de Dieu seul, il s'expose à être le jouet de Satan. Dans sa sagesse, le Seigneur a prévenu ce danger en établissant des liens étroits entre les croyants, le chrétien doit être uni au chrétien et la cohésion doit régner dans l'Église. C'est ainsi que l'humain coopérera avec le divin. Chaque moyen employé par Dieu, pour son œuvre sera contrôlée par le Saint-Esprit. Tous les chrétiens seront unis pour agir avec méthode et sous une direction éclairée, afin d'apporter au monde la bonne nouvelle du salut. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et chacun de ces membres remplit ses fonctions sous l'impulsion de l'intelligence qui gouverne le corps tout entier. Ainsi, les membres de l'Église du Christ doivent être unis dans un corps bien ordonné, soumis à l'intelligence sanctifiée de l'ensemble. Le choix des conducteurs de l'Église locale. L'apôtre Paul écrit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. N'impose les mains à personne avec précipitation. Dans quelques-unes de nos églises, le travail a été organisé avec précipitation et les anciens ont été consacrés prématurément. On n'a pas observé la règle biblique et il s'en est suivi des troubles graves dans l'Église. Quelle que soit leur capacité, on ne devrait ni élire ni consacrer avec tant de hâte des hommes qui, en aucune manière, ne sont qualifiés pour porter des responsabilités dans l'œuvre, des hommes qui ont besoin d'être convertis, cultivés, ennoblis, épurés, avant de pouvoir servir la cause de Dieu. Prévoir des lieux de culte. Quand un intérêt a été suscité dans une localité, cet intérêt doit être suivi. Le message doit y être prêché partout, jusqu'à ce qu'un humble lieu de culte y soit établi, se présentant comme un signe, un mémorial du sabbat de Dieu, une lumière au milieu des ténèbres. Il doit y en avoir de nombreux endroits comme témoins de la vérité. Les questions relatives aux lieux de culte ne doivent pas rester en suspens. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que des lieux de culte soient assurés pour la cause de Dieu. Afin que le progrès de l'œuvre ne soit pas retardé et que les moyens par lesquels les gens désirent se consacrer à la cause de Dieu ne retournent doucement dans les rangs de l'ennemi. Il m'a été montré que le peuple de Dieu doit se conduire avec circonspection, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser les affaires Dieu. Puis, après avoir fait de son mieux, il peut être confiant que Dieu anéantira les projets de Satan de profiter de son reste. Pour Satan, l'heure de travailler est venue. Un futur orageux nous attend. Et l'Église doit être réveillée pour aller de l'avant et s'opposer avec fermeté à ses plans. C'est le moment d'agir. Dieu n'est pas content que son peuple ne sache pas trop quoi faire en ce qui concerne les problèmes de l'Église, et supporte que l'ennemi prenne l'avantage sur lui et dirige les affaires à sa guise. Rencontre régionale, les camps meeting. Faites un effort pour fréquenter les rassemblements du peuple de Dieu. Frères et sœurs, il vaudrait infiniment mieux négliger vos affaires que de laisser passer ces occasions d'entendre le message que Dieu a pour vous. Ne cherchez aucune excuse qui vous priverait de l'avantage spirituel qui s'offre à vous. Vous avez besoin de vous préparer à donner raison de l'espérance qui est en vous, avec fermeté et douceur. Vous ne pouvez pas vous priver d'un tel privilège. Nous ne devrions pas aller au camp meeting en comptant sur les prédicateurs ou sur les lectrices bibliques pour que cette rencontre soit une bénédiction pour nous. Dieu ne veut pas que nous déchargions nos fardeaux sur les prédicateurs et que nous nous affaiblissions en comptant sur le secours d'êtres humains. Nous ne devons pas nous appuyer sur autrui, comme des enfants sans soutien. En tant qu'économe des grâces de Dieu, chaque membre devrait sentir sa responsabilité, et penser que dans une certaine mesure le succès de l'Assemblée dépend de lui. Le succès de l'Assemblée dépend de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Quiconque aime la vérité devait demander l'effusion de l'Esprit. Autant que cela est à notre pouvoir, nous devons renverser tout ce qui fait obstacle à son œuvre. L'effusion de l'Esprit ne peut se produire tant que les membres de l'Église cultivent la division et l'amertume. L'envie, la jalousie, les mauvais soupçons, la critique, viennent de Satan et ferment effectivement la voie à l'action du Saint-Esprit. Rien au monde n'est aussi cher à Dieu que son Église. Il n'est rien qu'il ne garde avec un soin aussi jaloux, et rien ne l'offense plus que de nuire à l'influence de ceux qui sont à son service. Il appellera en jugement quiconque aide Satan dans son œuvre de critique et de découragement.